Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire L'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec le titre. Le ministère des Affaires étrangères tient une réunion de consolidation avec le Centre d'études de l'ASEAN. Le ministère des Affaires étrangères encourage le renforcement de la coopération. Le ministre Luhut Binsar Panjaitan a répondu positivement à la suspension de l'adhésion à l'OPEP. Le ministre des Finances évaluera l'impact de la congélation de l'adhésion de l'Indonésie à l'OPEP. Le ministre Susi a déclaré que le secteur de la pêche est plus prometteur. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministère des Affaires étrangères a tenu récemment à Jakarta la réunion de consolidation de la direction de la coopération de l'ASEAN avec le Centre d'études de l'ASEAN. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur José Tavares, dans son rapport, a déclaré que la réunion de consolidation a pour but de renforcer le rôle du Centre d'études de l'ASEAN en tant que partenaire à l'ère de la communauté de l'ASEAN. Il espère que cette réunion peut renforcer le Centre d'études de l'ASEAN en partageant des informations sur le développement de la communauté de l'ASEAN actuellement. Le thème de la réunion est de renforcer le rôle du Centre d'études de l'ASEAN comme partenaire à l'ère de la communauté de l'ASEAN. La réunion de consolidation pourrait renforcer le Centre d'études de l'ASEAN avec diverses informations réelles sur le développement de la communauté de l'ASEAN, afin de renforcer le réseau entre le Centre d'études de l'ASEAN et les ministères concernés. La réunion recevra également des commentaires du Centre sur la possibilité du programme de l'activité et des idées innovatrices qui peuvent être effectués ensemble dans l'avenir. La réunion de consolidation a été officiellement ouverte par le vice-ministre des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir. Dans le cadre d'une série de réunions, le ministère des Affaires étrangères a également signé un protocole d'accord avec 12 universités de diverses régions dans le cadre de la création du Centre d'études de l'ASEAN. Jusqu'à présent, l'Indonésie a 34 centres d'études de l'ASEAN dans diverses régions d'Indonésie. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, l'ambassadeur José Tavares à Jakarta, a encouragé le renforcement de la coopération entre le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat national de l'ASEAN en Indonésie et le centre d'études de l'ASEAN afin de maximiser les possibilités offertes par la communauté de l'ASEAN pour l'intérêt de la communauté indonésienne. Tavares a également déclaré que les parties prenantes ont la responsabilité d'élargir l'utilisation des chances et des potentiels, l'un d'entre eux dans un effort pour soutenir le développement économique dans le pays. Dans ce cas, un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat national de l'ASEAN et le centre d'études de l'ASEAN doit être orienté pour les efforts mutuels afin d'utiliser au maximum la possibilité de la communauté de l'ASEAN pour l'intérêt de la communauté indonésienne. Notre principal devoir est d'élargir l'utilisation des chances par d'autres entreprises indonésiennes dans l'ASEAN, y compris les PME de l'Indonésie. L'ambassadeur José Tavares a déclaré actuellement qu'il y avait 720 entreprises indonésiennes qui ont élargi les entreprises dans différents pays membres de l'ASEAN. Pour soutenir son développement, selon l'ambassadeur José Tavares, le ministère des Affaires étrangères planifie le site web spécial pour l'ASEAN sous le secrétariat national de l'ASEAN en Indonésie, comme l'installation pour distribuer rapidement des informations. Le site est spécialement conçu pour être accessible via le smartphone. Le ministre de la Coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a répondu positivement à la décision de l'Indonésie de suspendre son adhésion à l'organisation des pays exportateurs de pétrole, ou l'OPEP. Monsieur Luhut Panjaitan a déclaré que la décision était exacte parce que la science de l'OPEP a décidé de réduire la production de pétrole brut en dehors de condensat de 1,2 million de barils par jour. L'Indonésie a été demandée de réduire d'environ 5% de la production, soit environ 37 000 barils par jour. Selon le ministre, la suspension provisoire de l'adhésion de l'Indonésie à l'OPEP avait également été faite. Comme rapporté par Antara, dans la 171e séance de l'OPEP à Vienne, en Autriche, le mercredi 30 novembre 2016, l'Indonésie a décidé de suspendre son adhésion à l'OPEP. La ministre des Finances, Mme Sri Mulyani, a déclaré à Jakarta jeudi qu'elle évaluerait l'impact de la décision de l'Indonésie de geler provisoirement l'adhésion à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou l'OPEP. Le gouvernement regardera tout le potentiel causé par cette décision, y compris en termes de recettes budgétaires, pétrolières et gazières, et le potentiel de hausse du prix du diesel qui sont encore subventionnés. Madame Sri Mulyani insiste également que la production ou la levée du pétrole national ne sera pas affectée si les dispositions qui ont été signées dans le Parlement ne changeront pas. Associée au potentiel du changement des prix du carburant dans le pays, selon Sri Mulyani, cela est soutenu par l'augmentation prévue des prix mondiaux du pétrole en raison de la réduction de la production de pétrole par l'OPEP. Cependant, du côté des recettes, la hausse des prix du pétrole dans le monde peut donner la grande réception au gouvernement. Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, Mme Susi Pujiastuti, a déclaré à Jakarta jeudi que l'avenir du secteur de la marine et de la pêche indonésienne serait plus prometteuse. Le président Joko Widodo a l'engagement à protéger l'industrie nationale de la pêche en interdisant la partie étrangère d'attraper du poisson, étant stipulé dans le décret présidentiel numéro 44 l'année 2016 concernant les domaines de l'activité qui sont fermés pour les étrangers. Selon Mme Susi Pujiastuti, l'économie des pays qui dépendent des exportations vont ralentir. Par conséquent, le marché intérieur doit être renforcé et les exportations de la marine et de la pêche se déroulent bien au milieu du ralentissement économique mondial. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé L'avenir du partenariat transpacifique après l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump devient le président des États-Unis ont soulevé des doutes sur l'avenir du partenariat transpacifique. L'organisation composée de 12 pays, donc les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, le Brunei Darussalam, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique, le Chili et le Pérou, il y a la possibilité de perdre le soutien des États-Unis et aussi abandonné par l'État qui sera officiellement dirigé par Donald Trump. Comme indiqué dans sa campagne, Donald Trump a confirmé son intention de quitter l'organisation qui a été créée en février. La politique commerciale qui a été lancée par Barack Obama après que Donald Trump à la Maison-Blanche très probablement va bientôt finir. La première étape à être réalisée par Donald Trump est de refuser à ratifier l'accord commercial étant convenu par 12 pays du Pacifique qui ont rejoint le partenariat transpacifique. L'état de former le partenariat transpacifique vise à renforcer le rôle des membres dans l'économie mondiale. La force du partenariat transpacifique dans l'économie mondiale atteint 40% de l'économie mondiale. Comme indiqué dans le pacte de l'établissement, le partenariat transpacifique vise à améliorer les relations et la coopération économique entre ses 12 membres, entre autres en examinant les tarifs commerciaux et encourager les échanges pour stimuler la croissance économique. Si l'idée de l'établissement de partenariat transpacifique se déroule selon le plan, il est probable que le nombre des membres augmentera et sa dominante dans l'économie plus intensifiera. En effet, la création du partenariat transpacifique a soulevé des questions sur la fiabilité et l'efficacité des organisations économiques asio-pacifiques qui ont été formées, à savoir la coopération économique asio-pacifique ou la CEAP. Dans la CEAP et le partenariat transpacifique, les États-Unis est le membre qui a le rôle et l'influence. Est-ce que la déclaration de Donald Trump que les États-Unis vont sortir de partenariat transpacifique sera également suivie par le retrait des membres de la CEAP? La communauté internationale attend encore le développement suivant. Parce qu'il y a la possibilité que Donald Trump va réétudier ce qu'il a été dit à plusieurs fois pendant la campagne. Si les États-Unis sont sortis de partenariat transpacifique, l'avenir de l'organisation, qui n'a pas encore un an, il n'est pas comme prévu au moment de sa fondation. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici notre programme quotidien aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition du 2 décembre. On va commencer le 2 décembre 1915. Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité générale. Albert Einstein était un physicien théoricien qui est largement considéré comme le plus grand savant du XXe siècle. Le 2 décembre 1915, Einstein publie sa théorie de la relativité et a également grandement contribué au développement de la mécanique quantique, la mécanique statistique et la cosmologie. Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique et des services à la physique théorique, ayant formulé la théorie de la relativité générale. Einstein a devenu célèbre dans le monde entier pour apprécier une unité dans la photochimie nommée Einstein, Einsteinium, élément chimique appelé étant astéroïde nommé 2001 Einstein. On change le 2 décembre 1942, première pile atomique. Après un an et demi, d'expérimentation et quelques tentatives infructueuses. Le physicien Enrico Fermi et son équipe réussissent à faire fonctionner la première pile atomique. Autrement dit, c'est la première fois que l'on parvient à créer une réaction nucléaire en chaîne dans un matériau fissile. Le principe est alors le même que dans les futures centrales nucléaires. Mais lors de cette expérience, on ne tente pas de récupérer l'énergie. Face à la peur de la voix de l'Allemagne nazie parvenir à réaliser une arme atomique, cette expérience ne sera pas mise à profit dans le civil immédiatement, mais elle permettra de mettre en œuvre la production de plutonium dérivé de l'uranium après réaction nucléaire. Cette production est alors destinée à la création des premières bombes atomiques. On change le 2 décembre 1988, Benazir Bhutto a été assermenté comme Premier ministre de Pakistan. Benazir Bhutto a été la première femme à diriger un État musulman dans l'ère post-coloniale. La charismatique de Benazir Bhutto a été élue Premier ministre du Pakistan le 2 décembre 1988. Mais 20 mois plus tard, il a été évincé par le président Ghulam Isaac Khan, qui a controversiellement utilisé le 8e amendement de dissoudre le Parlement et de déclencher des élections. Benazir Bhutto a été réélu Premier ministre en 1993, mais a rejeté 3 ans plus tard au milieu de divers scandales de corruption au moment où le président de pouvoir, Farouk Leghari. Bhutto a été accusé de corruption, mais plus tard son nom a été effacé. Benazir Bhutto a été tué le 27 décembre 2007 par un assassin qui a ensuite fait exploser une bombe de suicide. L'assassiné a eu lieu quand il venait de quitter la Likat nationale de Bagh à Rawalpindi à la campagne électorale de l'Orte au début de 2008. On termine le 2 décembre 1971, les Émirats arabes unis ont été fondés. Les Émirats arabes unis sont une union de 7 Émirats pays riches en pétrole. Ce sont Abu Dhabi, Ajman, Dubaï, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah et Umm Al Qayyim. Les États au mieux connus comme l'Émirat de tout au long de la côte du Golfe Persique ont donné le droit de la défense et des affaires étrangères de l'Empire britannique du 19e siècle. Le 2 décembre 1971, des États Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubaï et Al Qayyim ont uni leurs forces pour fonder les Émirats Arabes Unis. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'Histoire ce soir, l'édition du 2 décembre. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix de Nézi. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point et en petit titre, l'Indonésie a l'opportunité d'être grenier du monde. L'Indonésie est susceptible d'être le grenier du monde car il possède des terres qui peuvent être utilisées pour l'agriculture dans le but d'accroître la productivité de la nourriture nationale. Le gouvernement dispose de 9 millions hectares de terres qui est prêt à être utilisé par la communauté pour les cultures. Les ressources naturelles et des terres d'Indonésie soutiennent la production alimentaire d'être en mesure de rivaliser avec les autres pays. Pour atteindre cet objectif, le président Joko Widodo a lancé un appel au gouvernement central, gouvernement local, gouverneur, régent, maire, chef de village, conseiller, chercheurs et agriculteurs d'être capables de travailler ensemble. Le président, tout en donnant un discours dans la remise du prix Adhikarya Pangannusantara l'an 2016 au Palais d'État, Jakarta, le mercredi 30 novembre 2016, a affirmé qu'il continuera de contrôler l'utilisation du fonds du village pour être utilisé pour augmenter la production de nourriture, bon développement de l'irrigation et la production de poches à eau, soit réservoirs. Le président a expliqué l'an dernier le fonds du village d'Indonésie d'un montant de 20,5 trillions roupias était distribué dans toute l'Indonésie. Cette année, 47 trillions roupias. L'année prochaine, 60 trillions roupias, tandis que l'an 2018, selon le président, il a demandé au ministre d'allouer 120 trillions roupias. Le président Joko Widodo a affirmé d'avoir chargé le ministre de l'Agriculture, le ministre rural du développement des zones défavorisées et de la transmigration, le ministre des Travaux publics et du Logement public, de telle sorte que l'année prochaine commence à se concentrer sur faire le sac d'eau, soit réservoir, autant que possible, parce que la clé était dans l'eau, afin de produire tous les ans. Le gouvernement a également distribué 40 000 pompes à eau à partager avec le public. Le président Joko Widodo espère que tous les pionniers soient capables de transmettre et d'inspirer les autres à travailler et produire, de sorte que les gens deviennent productifs. Le président a également remercié les récipiendaires des prix pour son rôle dans la promotion du secteur de l'alimentation indonésienne. Cette année, le prix Adhikarya Pangannusantara a été décerné à 73 destinataires comprenant des 5 catégories, à savoir pionniers de la sécurité alimentaire, partie prenante de la sécurité alimentaire, acteurs du développement de la sécurité alimentaire, services de la sécurité alimentaire et fiduciaires de la sécurité alimentaire. Cependant, le ministre de l'Agriculture, Amran Sulaiman, à cette occasion a également signalé une augmentation de la sécurité alimentaire en Indonésie en 2016. En particulier, il y a eu une augmentation de la production de riz, de maïs, des poivrons et des oignons. Amran Sulaiman a dit, cette année l'Indonésie n'importe plus de riz, des oignons et des poivrons. Même les importations de maïs jusqu'à récemment ont également chuté d'environ 60%. Chers amis, c'est de la mise au point.
Le ministère des Affaires étrangères a tenu récemment à Jakarta la réunion de consolidation de la direction de la coopération de l'ASEAN avec le Centre d'études de l'ASEAN. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur José Tavares, dans son rapport a déclaré que la réunion de consolidation a pour but de renforcer le rôle de Centre d'études de l'ASEAN en tant que partenaire à l'ère de la communauté de l'ASEAN. Il espère que cette réunion peut renforcer le Centre d'études de l'ASEAN en partageant des informations sur le développement de la communauté de l'ASEAN actuellement. Le thème de la réunion est de renforcer le rôle du Centre d'études de l'ASEAN comme partenaire à l'ère de la communauté de l'ASEAN. La réunion de consolidation pourrait renforcer le Centre d'études de l'ASEAN avec diverses informations réelles sur le développement de la communauté de l'ASEAN, afin de renforcer le réseau entre le Centre d'études de l'ASEAN et le ministère concerné. La réunion recevra également des commentaires du Centre sur la possibilité du programme de l'activité et des idées innovatrices qui peuvent être effectuées ensemble dans l'avenir. La réunion de consolidation a été officiellement ouverte par le vice-ministre des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir. Dans le cadre d'une série de réunions, le ministère des Affaires étrangères a également signé un protocole d'accord avec 12 universités de diverses régions dans le cadre de la création du Centre d'études de l'ASEAN. Jusqu'à présent, l'Indonésie a 34 centres d'études de l'ASEAN dans diverses régions d'Indonésie. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, l'ambassadeur José Tavares à Jakarta, a encouragé le renforcement de la coopération entre le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat national de l'ASEAN en Indonésie et le centre d'études de l'ASEAN afin de maximiser les possibilités offertes par la communauté de l'ASEAN pour l'intérêt de la communauté indonésienne. Tavares a également déclaré que les parties prenantes ont la responsabilité d'élargir l'utilisation des chances et des potentiels, l'un d'entre eux dans un effort pour soutenir le développement économique dans le pays. Dans ce cas, un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat national de l'ASEAN et le centre d'études de l'ASEAN doit être orienté pour les efforts mutuels afin d'utiliser au maximum la possibilité de la communauté de l'ASEAN pour l'intérêt de la communauté indonésienne. Notre principal devoir est d'élargir l'utilisation des chances par d'autres entreprises indonésiennes dans l'ASEAN, y compris les PME de l'Indonésie. L'ambassadeur José Tavares a déclaré actuellement qu'il y avait 720 entreprises indonésiennes qui ont élargi les entreprises dans différents pays membres de l'ASEAN. Pour soutenir son développement, selon l'ambassadeur José Tavares, le ministère des Affaires étrangères planifie le site web spécial pour l'ASEAN sous le secrétariat national de l'ASEAN en Indonésie, comme l'installation pour distribuer rapidement des informations. Le site est spécialement conçu pour être accessible via le smartphone. Le ministre de la Coordination maritime, Luhut Binsar Panjaitan, a répondu positivement à la décision de l'Indonésie de suspendre son adhésion à l'organisation des pays exportateurs de pétrole, ou l'OPEP. M. Luhut Panjaitan a déclaré que la décision était exacte parce que la science de l'OPEP a décidé de réduire la production de pétrole brut en dehors de condensat de 1,2 million de barils par jour. L'Indonésie a été demandée de réduire d'environ 5% de la production, soit environ 37 000 barils par jour. Selon le ministre, la suspension provisoire de l'adhésion de l'Indonésie à l'OPEP avait également été faite. Comme rapporté par Antara, dans la 171e séance de l'OPEP à Vienne, en Autriche, le mercredi 30 novembre 2016, l'Indonésie a décidé de suspendre son adhésion à l'OPEP. La ministre des Finances, Mme Sri Mulyani, a déclaré à Jakarta jeudi qu'elle évaluerait l'impact de la décision de l'Indonésie de geler provisoirement l'adhésion à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou l'OPEP. Le gouvernement regardera tout le potentiel causé par cette décision, y compris en termes de recettes budgétaires, pétrolières et gazières, et le potentiel de hausse du prix du diesel qui sont encore subventionnés. Madame Sri Mulyani insiste également que la production ou la levée du pétrole national ne sera pas affectée si les dispositions qui ont été signées dans le Parlement ne changeront pas. Associée au potentiel du changement des prix du carburant dans le pays, selon Sri Mulyani, cela est soutenu par l'augmentation prévue des prix mondiaux du pétrole en raison de la réduction de la production de pétrole par l'OPEP. Cependant, du côté des recettes, la hausse des prix du pétrole dans le monde peut donner la grande réception au gouvernement. Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré à Jakarta jeudi que l'avenir du secteur de la marine et de la pêche indonésienne serait plus prometteur. Le président Joko Widodo a l'engagement à protéger l'industrie nationale de la pêche en interdisant la partie étrangère d'attraper du poisson, étant stipulé dans le décret présidentiel numéro 44 l'année 2016 concernant les domaines de l'activité qui sont fermés pour les étrangers. Selon Mme Susi Pujiastuti, l'économie des pays qui dépendent des exportations vont ralentir. Par conséquent, le marché intérieur doit être renforcé et les exportations de la marine et de la pêche se déroulent bien au milieu du ralentissement économique mondial. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous nous rencontrons à nouveau dans la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous prendre voyager dans la province Bangka Belitung. Alors, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la Voix d'Indonésie. Batu Belubang, en français la pierre Belubang, est le nom d'un village situé dans le district Pangkalan Baru, la région Bangka Central, la province des îles Bangka Belitung. Ce village est connu comme l'un des centres de production de poissons frais aux îles Bangka Belitung. En plus d'un grand potentiel de pêche, le village Batu Belubang a aussi un grand potentiel pour le tourisme maritime. L'un d'entre eux est la plage Tapak Antu. Cette plage a de sable blanc, les rochers propres et la mer bleue. La plage Tapak Antu n'est pas loin de la ville Pangkal Pinang, capitale provinciale de Bangka Belitung, à environ 15 km. Elle peut être atteinte pendant 25 minutes en transport terrestre. Son emplacement est conclu passant à travers le canton. Malgré cela, ce n'est pas difficile de trouver cette plage car il y a un certain panneau. Pour entrer à la plage, l'entrée est gratuite. Vous devez seulement payer le parking. Pour les voitures, 5000 rupiah et pour les motos, 3000 rupiah. Comme les plages à Bangka en général, la plage Tapak Antu présente un beau panorama. La plage de sable blanc avec la mer bleue et les vagues calmes est remplie de grosses pierres blanches typiques de l'île Bangka. Le nom Tapak Antu est tiré du mot Tapak qui signifie les pommes et Antu qui signifie fantôme. Il est ainsi nommé parce que dans l'un des rochers de granit existants sur la plage, il y a un droit de trou en forme de semelle de pied droit et la communauté locale le considère comme fait la semelle de fantôme. Cette plage est équipée d'une aire de stationnement, une salle de bain ainsi que certains belvédères qui peuvent être utilisés par les visiteurs. Les militants de voyage dans le village ajoutent également à l'attractivité de la région pour développer un verger. La La plage Tapakantu a une belle vue car il y a beaucoup de formations rocheuses de granit géants sur le côté de la plage. Vous pouvez prendre des photos avec l'arrière-plan de ce géant formation rocheuse en granit. Comme la plage en général, sur cette plage, vous pouvez nager et ne devez pas se soucier parce que les vagues étaient assez calmes. Outre se prélasser détendre dans les belvédères, vous pouvez aussi pêcher ou attraper des poissons. Ensuite, vous pouvez graver vos poissons capturés sur la plage. Parce que la plage est également située pas loin du village de pêcheurs et des vents aux enchères de poissons, lors de la visite, n'oubliez pas d'acheter des souvenirs de poissons salés des villageois ou acheter du poisson frais du port. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. À demain! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs. Rencontrons-nous dans le magazine En couleurs et en pour-titre, l'unicité de la maison traditionnelle de Sumba, Umma Bokulu. Sumba est une île située dans la province de l'Est de Nusa Tenggara. Sumba a une maison unique. La maison unique est nommée Umma Bokulu ou Umma Mbatangu, qui est l'un des patrimoines de l'architecture unique indonésie. La maison traditionnelle des gens de Sumba est nommée Umma. Chaque Umma a un nom basé sur le statut social. La maison des gens ordinaires s'appelle Umma Mahapu Manu. La maison des leaders des règlements est appelée Umma Rato. La maison pour les chefs traditionnels nommée Umma Delo et les bâtiments de délibération est appelée Umma Wawine. Umma ou maison traditionnelle des gens de Sumba a sa propre valeur architecturale car elle a un toit conique haut. La construction de la maison est sous la forme de la maison sur pilotis. La scène de la maison est utilisée comme un lieu d'activité humaine, comme un endroit pour cuisiner et un endroit pour dormir. Alors qu'au-dessous de la scène est utilisée pour élever des bétails tels que les chevaux, les chèvres, les porcs et les autres. Il y a aussi une place spéciale pour les mères et les femmes tisses. La force de ce bâtiment est située sur les quatre piliers sous la forme des bois ronds géants appelés Kambaniru Ludungu. À l'alentour du pôle principal, il y avait 36 piliers complémentaires nommés Kambaniru. Umma Bokulu est construit ensemble à travers une série de la cérémonie traditionnelle. Pour construire la grande maison, on n'utilise pas des clous, mais avec une corde en rotan. Lors de l'installation d'un toit de chaume, il ne devrait pas être une pause repas avant que la fermeture de toit finisse. L'unicité de Umma Bokulu est la forme conique du toit appelée Umma Deta. Dedans, il y a des pièces utilisées qui sont utilisées comme grange pour stocker les semences, les produits alimentaires et des héritages. À la page d'accueil ou véranda, on installe généralement la corne de buffalo ou les croque porc. Cela comme une preuve que la propriétaire a coupé le bétail est également comme un signe si le propriétaire de la maison est une personne importante dans la société. C'est agréable et fraîche d'habiter dans Umma Bokulu. parce que l'air circule à travers les fissures des planchers et des murs de bambou. La maison traditionnelle de Sumba est toujours maintenue son authenticité. Cette maison peut être trouvée dans les villages autochtones comme Wainyapu, Ratongaro, Tarung, Waitabar, Lamboya, Wanokaka, etc. Serviteurs, c'était l'émission Couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même à même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme l'enfant de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, voici le magazine de musique et des chansons de vendredi. Et pour ce soir, le rythme de Dangdut. Et avec la chanteuse Camelia Malik. Vous savez, Camelia Malik, elle est très connue quand, avec son épouse Reynold Panggabean, fondé le groupe Tarantula. Auparavant, aux années 80, Mia, le nom populaire de Camelia Malik, pense que sa voix n'est pas si belle. Mais son mari, Reynold Panggabean, la supporte toujours avec le groupe Tarantula. Alors, son mari a composé des chansons qui sont liées avec le caractère de voix de Mia. Plus tard, la chanson Colek Colek est publiée, qui s'accorde avec la voix de Mia. Bon, chers amis, allez écouter la chanson de Camelia Malik avec la chanson Colek Colek. Bonne écoute. Chers amis, vous venez d'écouter la chanson Cholak Cholek. Et vous avez, grâce à cette chanson, Camilla Malik avec le groupe Tarantula sont populaires dans le monde musical indonésien. De plus, on peut égalité ou égal, son nom est similaire avec le légendaire de dangdut Elvy Sukaesih et Roma Irama. Camilla Malik est très douée de danse jaipong, c'est-à-dire la danse traditionnelle sundanese. Elle mixe le rythme de dangdut avec la danse jaipong. C'est pourquoi le style de Camilla Malik est très vivant et différent que les autres. Avec son groupe, Mia a fait le tour à l'étranger comme à Tokyo au Japon. Cependant, le Tarantula propose le nouveau genre musical car il mixe et adopte le jazz, pop, rock et le dangdut dans sa musique. Camilla Malik est d'origine la famille qui aime de l'art. Son père, Jamaluddin Malik, est cinéaste ainsi que musicien. Mais Mia est plus célèbre comme chanteuse ainsi que diva de dangdut. Bon, chers amis, allez écouter la chanson de Mia intitulée Kalangkang Cinta. Bonne écoute.
Kalangkang ang
Chers amis, avec cette chanson, Camélia Malik gagne le grand succès. Et puis, elle joue le rôle dans le film. Mais hélas, elle a du succès dans sa carrière, dans la musique, mais sa famille est triste. Plus tard, elle se divorce avec son mari, Reynold Panggabean. Bien que maintenant, elle se présente rarement au public, mais elle se présente quelquefois au programme à la télévision. Chers amis, c'était l'histoire de Camélia Malik. Et avant de vous quitter, allez écouter d'abord les deux dernières chansons de Mia, intitulées « Raba Raba et Segudang Rindu ». Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.